Bien, bonsoir. Donc, nous accueillons aujourd'hui pour la séance du séminaire La littérature et son dehors, Fernand Alain. Alors, Fernand Alain est professeur de littérature française générale à l'Université de Gand. Il est auteur de nombreux travaux qui articulent l'analyse rhétorique, la poétique et l'histoire des sciences. Il dirige un centre d'histoire des sciences à l'Université de Gand. Alors, ses principaux travaux, d'abord sa thèse, les formes métaphoriques dans la poésie baroque, donc travaux, je crois, avant tout de rhétorique, qui lui ont permis ensuite d'opérer un retour sur un corpus scientifique. Les ouvrages, l'ouvrage le plus récent, c'est celui qu'a Marielle Massé dans les mains, Les structures rhétoriques de la science, de Kepler à Maxwell, c'est publié au Seuil, mais il est aussi l'auteur de travaux sur Galilée, Galilée le messager des étoiles, publié au Seuil en 92, et la structure poétique du monde, Copernic et Kepler, donc au Seuil en 1987. Alors, la séance va se dérouler ainsi. Je vais tout d'abord donner la parole à Alexandre Geffen, qui va faire une présentation un peu générale des travaux de Fernand Alain. Puis, Marielle Massé rendra compte, en fait, du dernier ouvrage que je vais présenter, Les structures rhétoriques de la science. Puis, nous donnerons la parole à Fernand Alain, qui lui-même présentera ses propres travaux. Et puis j'espère que cela ouvrira sur une discussion, un échange fertile avec la salle. Voilà.
Alors, c'est difficile de présenter des travaux aussi riches, et surtout dont le caractère interdisciplinaire à la frontière de l'histoire des sciences, de l'histoire des idées, de l'histoire de la littérature, des poétiques formelles et de l'histoire de l'art, recouvre donc un spectre aussi large. Donc je serai simplement quelques travaux qui m'ont particulièrement intéressé et peut-être des travaux un peu moins connus que les récents ouvrages de Fernand Alain au Seuil. Dit Alexandre a évoqué cette thèse publiée chez Drouot en 2015, suivant suit de très nombreux articles. Et pour donner un exemple moi d'un travail qui m'a particulièrement intéressé et un exemple de cette interdisciplinarité à large spectre, je mentionnerai par exemple une étude intitulée Holbein, la mort en abîme, consacrée à l'anamorphose dans les ambassadeurs d'Holbein. Je mentionne cette étude parce qu'elle est vraiment digne de Daniel Arras qui évoque la manière dont, à l'aide d'une réflexion sur les théories picturales de Renaissance, mais aussi de Freud et de Lacan, cette fameuse anamorphose dans les ambassadeurs, dans cette œuvre si singulière, voit l'assomption de la représentation organisatrice dissimuler en fait la précarité de notre condition humaine et de la construction unitaire du sujet. Tout ça avec un croisement absolument impressionnant entre histoire des idées, histoire des formes, histoire de la littérature et histoire de la peinture. Alors cet article est paru dans un volume qui s'appelle Romania, un volume de la revue Romania Gandensia, consacré à la question de la mise en abîme, question sur laquelle Fernand Alain est revenu à plusieurs reprises, notamment pour dialoguer avec les mots et les choses de Michel Foucault. L'idée, si j'ai bien compris, étant d'étendre la question de la mise en abîme et son champ d'application à la Renaissance et pas seulement à l'âge baroque, selon l'hypothèse de Michel Foucault. Une question fondamentale de périodisation des épistémés sur laquelle vous êtes revenu à plusieurs reprises, je crois. Alors, un autre ouvrage notable est un essai de synthèse consacré aux poétiques de la Renaissance, notamment à travers les échanges franco-italiens, où ce dialogue entre les poétiques sert à Fernand Alain à revenir sur la notion d'inspiration qu'il essaye de définir au carrefour entre richesse et complexité, et également à s'interroger sur la notion d'imitation, l'apport étant de montrer qu'on ne peut pas réduire la complexité de l'imitation à la Renaissance au dialogue classique entre Platon, Aristote et Horace. Alors un autre numéro de Romania ou Romanica Gandensia en 94 regroupe d'autres études consacrées à la Renaissance sous le titre Sens des formes. Vous y interrogez les concepts modernes de la poétique des années 70 dans des corpus inattendus, des corpus essentiellement du 15e et 16e siècle, à travers toute une série de questions dont je citerai quelques-unes pour montrer leur pertinence même pour des gens qui sont habitués à la culture théorique du XXe siècle. Par exemple, quel concept et quel vocabulaire générique doit-on utiliser pour parler de l'œuvre de Rabelais? Est-ce qu'on doit parler de fiction, d'utopie, d'une parodie du discours évangélique? Peut-on penser en termes modernes la pluralité des significations des textes de la Renaissance? Est-ce qu'on peut les assimiler à ce qu'on a l'habitude de penser comme étant la définition moderne de l'esthétique, que cette pluralité, cette suspension du sens univoque de l'œuvre? La théorie littéraire du langage de Jacobson, et en particulier son analyse de la fonction poétique du langage, est-elle pertinente pour décrire la poétique de Dubélé? Autre question posée par Fernand Alain. Quelles constructions psychologiques et phénoménologiques de soi et de l'autre sont-elles en œuvre dans les emblèmes de la Delhi, hein, question de psychologie et de phénoménologie appliquée à une œuvre à l'aide d'un concept formel, parce qu'on a toute une typologie de la notion d'emblème. Quelle application peut-on faire de la définition donnée par Todorov du fantastique à l'œuvre picturale d'Archimboldo? Ou encore, que nous apporte l'opposition entre fiction et diction pour lire l'œuvre de Maurice Sèvres, Le Microcosme? Voyez le type de questions très très larges, qui sont parfois proches d'interrogations des formalistes, parfois proches également de Louis Marin, duquel on peut rapprocher également les travaux de Fernand Alain, dans son intérêt entre les rapports parfois conflictuels et souvent complexes entre mimesis littéraire et mimesis pictural. Notamment, il y a un très bel article sur de comparaison entre la théorie d'apprentissage d'Alberti, celle de Ronsard et d'autres poéticiens de la Renaissance, qui permettent, autour de la notion de copieuse diversité et de distribution, de cerner les points communs éventuels entre ces différentes poétiques de la Renaissance. Alors, il y a une autre question de mimésis qui émerge dans votre travail et qui deviendra centrale. C'est celle des rapports qui sont à la fois interdiscursifs et intertextuels entre poésie et science. Et dans un premier moment, j'ai l'impression que vous l'abordez à travers une réflexion sur les poètes scientifiques, en particulier les poètes scientifiques de la Renaissance telle que du Bartas, en essayant ici d'utiliser des concepts d'histoire des idées pour comprendre ces poètes-là, puis dans un second temps, en essayant d'utiliser et d'étendre le vocabulaire théorique de la littérature, analyse des textes scientifiques. Il s'agira ici de poser des questions qui sont pas seulement de poétique, mais d'épistémologie. S'agira pas seulement de faire émerger la textualité de ces textes de Renaissance, comme c'est souvent et un peu rapidement fait, mais de montrer comment une théorie scientifique, par exemple celle de Kepler ou de Copernic, parce qu'elle induit une expérience de pensée, est indissociable de modèles de représentation et de narration, et à ce titre-là, qu'elle peut dialoguer avec des réflexions qu'on a plus communément l'habitude de qualifier de littéraire. D'où une entreprise théorique qu'on pourrait qualifier de poétique de l'hypothèse, telle qu'elle est mise en place d'abord dans cet ouvrage paru au Seuil en 1996, qui s'appelle « La structure poétique du monde », puis dans Galilée, « Le messager des étoiles », toujours au Seuil en 1992. Cette poétique de l'hypothèse vise à s'intéresser non seulement aux paradigmes constitués, en les rapprochant sur le simple plan de l'histoire des idées, mais de proposer des outils d'analyse profond, des processus de naissance et de structuration des hypothèses scientifiques, un champ tout à fait novateur, en insistant notamment sur les topiques, en montrant que les topiques qui sont à l'origine des phénomènes de construction en rhétorique sont également opératoires quand il s'agit de construire une théorie scientifique. Alors ces topiques, vous en distinguez trois espèces en mettant en place toute une série d'outils théoriques qui seront réutilisés dans de nombreux travaux. Vous opposez les chaînes de représentation, les chaînes de signification et les valeurs de vérité. Et ensuite, vous pouvez penser à travers l'exemple de Galilée, Copernic et Kepler, les rapports culturels de différences et de similitudes intertextuelles entre les œuvres scientifiques et celles des autres domaines du savoir et des arts, à l'aide d'outils théoriques solides. Et c'est là que commence cette entreprise qui sera l'objet central des structures rhétoriques de la science, dont on parlera plus précisément, qui est la mise en place d'une tropologie, hein. Une tropologie des sciences qui est un peu l'équivalent par exemple des travaux de Hayden White qui a essayé de mettre en place une tropologie de l'histoire, donc une tropologie générale des structures de pensée scientifique est le pan actuel de vos champs de recherche et qui est en tout cas celui sur lequel on va insister. Maintenant, je crois que Marielle va vous présenter en particulier les analyses. Voilà, on vous interdit de parler. Voilà.
On continue cet exercice discourtois qui consiste à prendre la parole avant vous. Mais bon, il s'agit surtout d'assurer un terrain de dialogue commun pour tout le monde. Donc, je vais présenter un petit peu longuement ce dernier livre donc, qui est apparu l'année dernière au Seuil, en 2004, « Les structures rhétoriques de la science ». Juste avant de commencer la séance, on parlait avec vous justement de la porte étroite que constitue l'entrée rhétorique pour l'analyse des textes scientifiques, puisque que ce soit du côté d'une sociologie de la production scientifique telle qu'elle a fleuri surtout aux États-Unis ou en France avec Bruno Latour, ou d'une approche extrêmement sceptique dans ce qu'on pourrait appeler le pan-textualisme actuel. Disons le recours que vous offrez pour l'étude des textes scientifiques à partir des catégories rhétoriques est tout à fait neuf et vraiment original dans ce champ d'une étude discursive des textes scientifiques. D'un point de vue historique, ce livre est aussi très révélateur de vos travaux puisqu'il porte sur deux grands moments historiques. L'univers classique, disons, mais aussi la seconde révolution scientifique. Et on pourrait aussi diviser en deux la signification de cette approche rhétorique, puisque vous précisez bien que rhétorique ici s'entend d'une part au sens d'une force persuasive lorsqu'il s'agit pour une science déjà faite de communiquer ses résultats, mais aussi dans ce que vous appelez une rhétorique profonde, et peut-être vous pourrez nous expliquer la synonymie entre rhétorique profonde et poéticité, ou entre rhétorique profonde et topique, lorsqu'il s'agit cette fois, pour une science en train de se faire, de former ses concepts et ses représentations, mais aussi de gager de leur lisibilité, de leur recevabilité, dans un cadre historique et épistémologique donné. Donc rhétorique, ici, a vraiment ces deux sens, du côté de l'élocution, la présentation des résultats, et du côté de l'invention, le processus même de formation des concepts. Et je pense que c'est en ce sens que votre proposition regarder les textes scientifiques via le prisme rhétorique est vraiment très 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 féconde, puisqu'on ne sépare plus l'effet de pouvoir du discours scientifique ou son effet d'autorité et l'invention elle-même des processus scientifiques. On pourra aussi peut-être vous interroger sur la place que vous accordez à vos propres travaux dans cette constellation d'études sur le discours scientifique entre ou contre la sociologie de la science, mais aussi les études cognitives, mais également des travaux qui vous sont peut-être plus proches en philosophie des sciences, comme ceux de Judith Schlanger, mais que vous ne citez pas, donc peut-être que c'est un rapprochement malvenu de ma part. En tout cas, on pourra comparer ces différentes approches. Alors, pour présenter un peu plus précisément cet ouvrage, la question principale qui l'anime, c'est sans doute comment découvre-t-on. Lorsqu'on s'intéresse au discours scientifique, comment restituer les étapes de la création scientifique? Alors vous partez d'un constat très très simple qui est celui de l'impossibilité d'un contact pur avec l'objet et vous soulignez que il est impossible de se formuler une représentation scientifique qu'on puisse atteindre hors de toute médiation entre un sujet et un objet. Et de ce point de vue, le langage dont vous construisez cette approche du texte scientifique par le langage et par la rhétorique, en présentant le langage comme l'une de ces médiations. L'une de ces médiations, mais dans un sens qui n'est pas du tout sceptique, puisque vous présentez justement cette approche textualiste du discours scientifique, non pas comme l'occasion d'un soupçon porté sur la science elle-même, mais comme la meilleure voie pour ouvrir ce que vous appelez les boîtes noires de la science, et donc considérer les textes non seulement comme les traces, mais aussi comme l'espace de déploiement de l'invention, du processus lui-même de l'invention. Cette image de boîte noire, j'ai vu qu'elle avait eu beaucoup de succès dans les dans les comptes rendus qu'on a écrits de votre livre. Enfin, c'est quelque chose qui, semble-t-il, a permis de réévaluer la textualité du discours scientifique. Alors, je vais rapidement parcourir quelques-uns des articles qui forment la construction de l'ouvrage. Le premier, donc, autour de Kepler et de la découverte de la troisième loi. Alors, ce sur quoi on pourra peut-être revenir et qui, en tout cas, moi, a vraiment retenu ma lecture, c'est l'idée que vous interrogez dans le processus de la découverte, non pas le moment discriminant, l'eureka, comme ça peut être le cas dans des biographies scientifiques comme celle de Poincaré, l'eureka, le kairos, la discontinuité du moment de la découverte, mais au contraire la genèse de la représentation. Et ça, c'est un point d'accroche pour les littéraires, précisément, qui trouvent avec vos analyses des outils importants pour une étude narrative du procès de l'invention, plutôt que du résultat. Alors, vous critiquez justement cet idéal cognitiviste d'une reproduction des conditions de l'invention, puisque vous comparez le texte de Kepler avec une expérience qui a été refaite avec des étudiants qui consistait à leur donner les chiffres à partir desquels Kepler avait élaboré sa théorie. Le cadre de l'expérience cognitive consistait à essayer de retrouver le processus suivant lequel la théorie avait été élaborée, et vous insistez sur la différence qu'il y a entre la découverte de Kepler et cette reproduction en laboratoire des conditions de l'invention à travers l'idée d'intérêt et de subjectivité, en insistant sur le fait qu'une recherche scientifique tenir compte non seulement du savant comme sujet scientifique, non seulement du savant comme agent de calcul, mais aussi du savant comme personne, mu par des croyances, des représentations du monde qui souvent précèdent la construction de la preuve et n'en découlent pas. Et vous insistez donc sur ces trois instances subjectives qui sont rassemblées dans la personne d'un savant et qui en font un inventeur de langage, quelqu'un qui a des intérêts à la recherche et à la découverte, et pas seulement donc un calculateur. Alors le deuxième article, qui s'intitule « Galilée et les tropes de l'observation », là va procéder d'une façon plus explicite à ce classement anthropologique dont parlait Alexandre tout à l'heure, puisque, enfin, si je vous ai bien lu, il y a une sorte de distinction entre trois procédures rhétoriques de l'observation, ce que vous appelez l'inférence métonymique, l'inférence métaphorique et le savoir. Alors je vais le dire avec le substantif, parce que je ne sais pas comment on prononce l'adjectif, le savoir de la synecdoque. Synecdochique, chic, je ne sais pas.
C'est chic.
C'est chic, bon. Alors, ce qui est passionnant dans ce moment, c'est que vous montrez, disons, c'est devenu un topos de dire que le regard, qu'il soit scientifique ou pictural, est historique, mais vous montrez que le regard est aussi une rhétorique qui met en œuvre des opérations de transformation de la représentation, des opérations de substitution, et que donc on ne doit pas s'interroger simplement sur l'historicité d'un regard, mais aussi sur l'opération que constitue un regard scientifique. Alors vous insistez là encore sur les systèmes de croyances qui préexistent à une invention, ce qui est, je pense, révélateur du mode non sceptique avec lequel vous lisez les textes scientifiques, c'est que ce corpus de croyances qui préexiste à la découverte, vous ne le tenez pas, je crois, pour un obstacle épistémologique à la manière de Bachelard, mais pour une des conditions de possibilité, à l'inverse, de l'invention scientifique. Et sans doute dans le débat on pourra revenir là-dessus, mais j'aimerais bien vous interroger sur votre lecture de Bachelard et sur le fait que c'est probablement le deuxième Bachelard, celui des images, et non pas le premier Bachelard, celui des concepts, qui peut-être vous est le plus proche. Donc vous insistez sur cette idée d'un corpus de croyances qui préexiste à l'invention, mais aussi sur la notion de valeur. Et là encore, je pense que ça a fait de vos travaux un ensemble très original dans le questionnement sur le discours scientifique. cette insistance sur les valeurs entrant en jeu dans la création de concepts, vous posez explicitement la question de l'évaluation des métaphores scientifiques. Il y a de bonnes et de mauvaises analogies en science, et il y a des façons de les discriminer. Alors vous avez, une hypothèse haute, je vous cite, « La meilleure description métaphorique est celle qui se laisse le mieux filer ». Donc c'est vraiment l'hypothèse, disons, la plus optimiste pour une étude d'ordre littéraire des textes scientifiques. Mais vous avez aussi une proposition très précise en termes épistémologiques qui consiste à dire « si l'on doit évaluer la pertinence des analogies, ce n'est pas dans leur rapport de ressemblance, ce n'est pas dans leur rapport ontologique avec le phénomène, donc ce n'est pas dans une évaluation de la pertinence de l'analogie remontant en amont vers le phénomène qu'elle décrit, mais c'est dans son rapport cognitif et épistémique avec le sujet connaissant. Donc c'est dans ce qu'elle permet à un certain moment de l'histoire, dans un certain contexte épistémologique, c'est ce qu'elle permet à un sujet... Alors, je ne sais pas comment je vais reconstruire ma phrase, mais c'est le discours qu'elle permet de tenir à un certain moment. Donc non pas, et je pense que c'est une, là encore pour un public de littéraire, une proposition extrêmement importante, cette idée de ne pas regarder la métaphore via la ressemblance qu'elle a avec l'objet qu'elle désigne, mais via le discours qu'elle permet à un sujet de tenir sur un objet. Et cette introduction donc de la catégorie de la valeur me semble tout à fait importante. L'article suivant porte sur le passage des anagrammes aux cryptogrammes dans la communication scientifique. Alors là, il ne s'agit plus du moment de l'invention conceptuelle, mais vraiment du moment de la communication d'un résultat. Et là, vous vous intéressez donc à certaines stratégies de révélation, voilement d'une découverte à l'âge classique, enfin de Galilée à Huygens précisément. Et vous vous intéressez à ce que vous appelez cette méta-figure qui consiste à exposer un savoir d'une façon cryptée. Et vous l'appelez méta-figure puisque vous dites on passe de la pratique du trope à la contemplation de la pratique du trope dans cette stratégie de communication d'un résultat. C'est aussi l'occasion, cet article, d'insister sur un mot qui vous retient souvent, j'ai l'impression, qui est le mot d'intérêt. L'intérêt que le sujet prend à l'exposition ou à la communication d'un savoir. Donc vous insistez sur les différents possibles de connaissances qui sont permis non seulement par un cadre historique, mais aussi par le désir d'un sujet. Et c'est à ce titre que vous insistez sur la notion d'intérêt. Différentes possibilités de savoir ou de communication d'un savoir qui sont aussi cadrées, dites-vous, enfin, si je vous ai bien compris, hein, n'hésitez pas à m'arrêter si je travestis votre pensée, donc qui sont aussi cadrées par ce qu'on pourrait appeler la puissance d'inertie de certaines métaphores, et vous avez des analyses très intéressantes sur le fait que certaines métaphores scientifiques demandent à être unifiées et définissent en cela un moment historique homogène, mais aussi demandent à être substituées par d'autres métaphores. Et là, je pense que ça rejoint des choses dont on a déjà parlé à propos des modes de constitution d'histoire littéraire, où on peut souvent s'interroger sur la pertinence la pertinence d'une métaphore choisie par les agents pour décrire leur propre pratique. Et le dernier livre de Laurent Génie, par exemple, sur un sujet qui n'a rien à voir, sur la notion d'expression en poésie, s'interroge lui aussi sur la rémanence de certaines métaphores et la nécessité à un moment de l'histoire de les substituer ou de les unifier. Donc il y a dans cet intérêt pour l'image scientifique une vraie promesse d'histoire des sciences faite autrement qu'en termes d'événements de découverte, cette fois en termes de recouvrement ou de substitution d'images. Alors je serai très rapide sur les derniers articles qui eux se tournent plutôt vers la question de la fiction et non plus vers la question de la figure, et disons, de la même façon que ce qu'on a dit avant le séminaire tout à l'heure, ce serait un objet sur lequel j'aimerais vous interroger, le voisinage ou la ressemblance entre les procédures narratives ou la production d'un univers fictionnel dans la science et les procédures figurales, enfin tout ce que vous mettez au jour fonctionnement métaphorique du discours de la science. Alors, cette question de la fiction, vous en parlez longuement à propos de Descartes et du texte de Descartes qui s'intitule Le Monde. Alors, vous avez une lecture extrêmement hardie, enfin, qui mobilise toutes sortes de références qui vont de la logique des mondes possibles chez Leibniz, mais aussi dans les théories actuelles de la fiction, jusqu'à certaines lectures de Borges, qui vous poussent à interroger la façon dont Descartes, donc, construit dans ce texte qui s'appelle Le Monde, construit une sorte de fable de la constitution de l'univers. Et le point sur lequel vous insistez, c'est que cette fable ne doit pas être évaluée en tant qu'allégorie, et là encore ne doit pas être évaluée dans sa ressemblance avec le monde qui est le nôtre, mais doit être évaluée en tant que fiction, en tant que construction fictionnelle, pour son pouvoir de fondation, pour son pouvoir de constitution performative d'un monde. J'ai l'impression d'être très très abstraite et très complexe en vous présentant. Je vais vite m'arrêter. Mais donc en tout cas là encore, l'idée de l'évaluation du discours scientifique ne se fait pas dans le désir que ce discours ressemble à l'objet dont il parle, mais dans sa capacité à fonder un langage et à fonder une façon de penser le monde. Je vais peut-être m'arrêter là en citant simplement un des derniers articles qui porte sur Sadi Carnot et qui, là, met en place la notion de problématisation. Donc là encore, une procédure que vous empruntez à la rhétorique pour montrer comment elle informe profondément les schémas de pensée, donc vous interrogez sur la façon dont on construit un problème en science, en insistant sur le fait que savoir ou réfléchir, ça n'est pas répondre à des problèmes devant lesquels le savant serait placé, mais c'est construire les problèmes, construire l'urgence de ces problèmes, toujours en termes de valeur ou de temps. Et pour modéliser, disons, cette idée d'une problématisation par le discours d'une question scientifique, vous réempruntez la notion rhétorique de la quaestio, de la construction de la question rhétorique. Et là encore, vous montrez comment l'élocution du texte scientifique et son pouvoir d'invention sont profondément mêlés. Donc je vais m'arrêter là-dessus en me taisant. Voilà.
Mais maintenant, je vais donner la parole à Fernand.
S'il reste quelque chose à dire. Je vous remercie en tout cas de cette lecture de près du livre. Quand j'étais étudiant, je ne savais pas qu'il existait quelque chose comme l'histoire des sciences. Ça se pratiquait d'ailleurs assez peu. J'étais un littéraire, comme la plupart d'entre vous. J'étudiais la littérature française et, comme ça a été dit, j'ai fait une thèse de doctorat sur la métaphore dans la poésie baroque. Dans la conclusion de cette thèse, j'ai été amené à établir des rapprochements entre un changement de statut de la métaphore à l'époque baroque, disons début du XVIIe siècle, et la révolution cosmologique qui avait lieu en même temps. Donc j'ai commencé à lire Coiré, et sur cette base-là, assez fragile, j'établissais donc en tant que suggestion dans cette conclusion ce rapprochement. Seulement les citations que j'avais lues de Kepler, par exemple, dans les ouvrages qui parlaient de lui, me fascinait, ce qui fait que dès que j'ai eu fini ma thèse, je suis allé emprunter l'œuvre complète de Kepler à la bibliothèque, 11 volumes, et depuis, elle ne m'a plus quitté, parce que c'est vraiment une œuvre passionnante. Et je me suis rendu compte aussi à ce moment-là, en lisant ces textes, qu'il y avait sans doute là des choses que moi je voyais, mais que quelqu'un avec une formation scientifique ou une formation d'historien ne voyait pas. Et que je pouvais donc apporter peut-être quelque chose à l'étude de ces textes. D'autre part, il me semblait intéressant aussi de travailler sur ces textes scientifiques, parce qu'ils étaient moins exploités que les textes littéraires, n'est-ce pas? Si vous comparez aujourd'hui une bibliographie annuelle de la littérature française, eh bien vous avez un volume aussi gros que ça. Une bibliographie de l'histoire des sciences, de toutes les sciences, de toutes les époques, ben c'est comme ça. Donc c'est un terrain où il y a, je pense, encore beaucoup plus à faire. Mais surtout, il y avait eu, depuis les années 60, surtout en France, un développement très important de la théorie littéraire, de la poétique, essentiellement. Et ce développement avait abouti, en fait, à des résultats qui étaient à la fois trop peu et trop puissants. Ils avaient trop peu de puissance et en même temps, ils en avaient trop. Trop peu puissants parce que le but que la plupart de ces poéticiens s'étaient fixé était de définir ce qu'ils appelaient la littérarité, ce qui fait la spécificité d'une œuvre littéraire. Alors, ça, c'est un point auquel on n'est pas parvenu. On n'a jamais pu établir une distinction claire et nette, évidente, entre ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas. En même temps, et ce n'est que le revers de la médaille, ces méthodes, ces concepts, etc., étaient aussi trop puissants, puisqu'on pouvait les appliquer à d'autres types de textes que les textes littéraires. On peut faire une analyse narratologique d'un article dans un journal, etc. Et il me semblait donc qu'on pouvait aussi utiliser tout ce qui avait été élaboré de manière théorique à ce genre de texte particulier qu'est le texte scientifique. Et cela a donc été, disons, l'essentiel de ma besogne depuis lors. Avec, je pense, un double intérêt, un intérêt spécifique et un intérêt général. Un intérêt spécifique dans la mesure où, comme je l'ai déjà dit, l'application de ces méthodes développées en études littéraires à des textes scientifiques pouvait donner des résultats nouveaux, pouvait conduire à des points de vue nouveaux, à une manière nouvelle de lire ces textes. Et aussi un intérêt général, puisque par l'adoption d'un langage qui en principe pouvait être appliqué à différents types de textes, on ouvrait aussi les textes scientifiques et l'histoire des sciences à l'interdisciplinarité, à la comparaison avec d'autres types de textes, à l'étude de toutes sortes de croisements, d'interférences qui échappaient sans ce discours-là. Donc en ce sens, je concevais ce travail aussi, surtout, et je le conçois toujours, comme une tentative de rapprochement entre ce qu'on appelle, depuis un livre célèbre, les deux cultures, d'une part la culture des sciences exactes et d'autre part la culture des humanités. Et il faut dire aussi qu'il y avait un certain plaisir à appliquer ce qui était à l'origine littéraire à la science, alors qu'en général on raisonne dans le sens inverse, on va chercher dans les textes scientifiques ce que des écrivains en ont tiré. Bon, ce travail, j'en suis venu à le concevoir essentiellement sous deux aspects, comme vous l'avez dit. D'une part, disons, une rhétorique de la communication, et d'autre part, cette rhétorique profonde ou cette poétique. La rhétorique de la communication porte donc sur l'étude des textes, des textes scientifiques, dans la mesure où ils exposent une science déjà faite, où ils exposent des résultats et qu'ils essayent de les justifier. On y trouve donc un ensemble de questions, dont une des plus importantes est celle de l'éthos, ce qu'on appelle en rhétorique l'éthos, c'est-à-dire la manière dont un auteur se présente à son public et par sa manière de se présenter essaye de d'influencer la lecture qu'on va faire de lui. Donc dans l'éthos d'un texte scientifique, des valeurs comme l'honnêteté, ne pas fausser une expérience, l'objectivité, parfois la modestie, mais parfois aussi l'assurance, sont des facteurs importants qui déterminent la présentation de l'argumentation. C'est là sans doute le type d'application de la rhétorique à des textes scientifiques qui est le plus souvent pratiqué. On retrouve cela chez Latour, aux États-Unis aussi, hein, et c'est une tendance qui souvent, à mon jugement, est pratiquée avec un peu d'excès dans la mesure où la rhétorique est souvent prise dans un sens péjoratif. On va chercher comment les auteurs scientifiques essayent de déroger à ce qui est logique, à ce qui est observation, etc., par des moyens rhétoriques. Mais la rhétorique n'est pas que cela, elle n'a pas que ce sens péjoratif, hein, ou encore les manières dont un auteur essaie de s'adapter à des conditions d'ordre sociologique, dans ce qu'on appelle strong, je ne sais plus comment, strong, la conception forte des études sociologiques. La rhétorique n'est donc pas cela, que cela, elle n'a pas que ce sens péjoratif. La rhétorique, c'est d'abord, pour un bon rhéteur, c'est quelqu'un qui sait bien parler, bene dicendi spiritus, et c'est aussi quelqu'un qui est bon. Donc la rhétorique comporte en fait toute une dimension éthique aussi, n'est-ce pas, à ce niveau, qui ne convient pas de ramener justement aux écarts par rapport aux valeurs éthiques en vogue. Pour l'autre aspect qui m'intéresse plus, la rhétorique profonde ou cette poétique, elle porte sur la créativité en fait. C'est une question de la créativité scientifique, quelqu'un qui crée quelque chose, qui propose quelque chose de nouveau en science, est un créateur. Et il y a sans doute des liens entre la créativité en science et la créativité dans d'autres domaines. Là, ce dont il est parfois difficile de convaincre certains, c'est que la manière dont on découvre en science ne se fait pas d'une manière purement ou même essentiellement logique. Les logiciens ont développé des méthodes de plus en plus nuancées, précises, pour essayer de cerner quand même la manière dont on procède pendant les étapes d'une découverte scientifique. Ils en sont même venus à développer ce qu'ils appellent maintenant des logiques paraconsistantes, c'est-à-dire des logiques qui intègrent des contradictions ou des écarts par rapport à des prémices, etc. J'ai assisté un jour à une discussion là-dessus où il y avait aussi Jaakko Hintikka, un célèbre logicien finnois, qui disait, pour moi, ça n'est plus de la logique. Je partage son avis, je pense que ce n'est plus de la logique, tout comme il n'y a pas de contact pur entre un œil ou un esprit et quelque chose d'extérieur, il n'y a pas non plus de processus logique pur. Et on peut penser que le moment de la découverte, justement, se passe très souvent d'un enchaînement logique. Le plus bel exemple que je connaisse, c'est le cogito de Descartes, n'est-ce pas? Dans les méditations, Descartes dit clairement Dans d'autres textes, il est dit un peu autrement, mais c'est clairement dit dans les méditations. La formule n'est pas cogito ergo sum, je pense donc je suis, la formule est cogito sum. Les deux se juxtaposent dans le moment d'une évidence, d'une intuition, sans qu'on formule une majeure, tout ce qui pense est, je pense, donc je suis, c'est une évidence qui se passe de logique, une intuition. Évidemment, la logique peut reconstruire après coup, a posteriori, un raisonnement, mais en fait, le cerveau ne fonctionne pas comme cela. Il s'établit une relation, une connexion subite, soudaine, souvent selon les figures dont j'ai encore parlé. Un autre exemple, c'est Kepler qui, à un moment donné, est en train de faire cours. Il dessine un diagramme au tableau et au moment où il va l'expliquer à ses étudiants, rien qu'en regardant ce diagramme, il a l'intuition de sa réponse à la question pourquoi il y a 6 planètes et pas 5 ou 7. Donc, c'est une intuition, où il n'y a pas de raisonnement, hein, c'est tout à coup la connexion qui s'établit. Une connexion qui s'établit, hein, il y a aussi des connexions qu'on refuse d'établir, pour des raisons qui n'ont rien de logique, hein, qui relèvent par exemple de l'esthétique, n'est-ce pas? Je vous cite une petite phrase, peut-être. Il y a des milliers d'exemples. Hein, je vous cite une petite phrase. C'est Einstein qui écrit à Lemaître, donc l'inventeur du Big Bang. Einstein ne pouvait pas accepter le Big Bang. J'ai trouvé vraiment abominable de devoir supposer que la loi du champ gravitationnel soit composée de deux termes logiquement indépendants, additionnés l'un à l'autre. Je suis incapable de croire qu'une chose aussi abominable puisse être réalisée dans la nature. Donc, vous voyez, la réaction n'a rien de logique, n'est-ce pas? D'ailleurs, le Big Bang, finalement, est accepté aujourd'hui. Donc, au lieu de passer par un cheminement purement logique dans ces moments d'intuition ou dans les moments où une évidence s'impose, je pense que ça se fait essentiellement par le passage par des figures. On admet que la métaphore, la métonymie, etc., jouent un rôle important dans des fonctionnements pathologiques, en psychanalyse, etc. Alors pourquoi ces figures ne seraient pas actives aussi dans un cerveau normal? Bon, là aussi, je ne vais pas vous citer beaucoup de choses, mais j'ai apporté ces deux citations que j'ai apportées sur cette importance des figures, donc qui ne sont plus des figures de style ou des figures d'élocution, mais véritablement des figures de pensée. On peut avoir recours à des métaphores pour mieux se faire comprendre. Cela appartient alors à la rhétorique de la communication. Mais il y a des figures qui sont constitutives de la pensée, des figures de pensée. Et bon, je vous dis simplement quelques lignes de Max Planck dans un très beau livre qui s'appelle « Initiation à la physique ». Si donc une hypothèse appropriée est indispensable dans tout travail de recherche inductive, il est impossible de ne pas se demander comment on peut arriver à trouver de pareilles hypothèses. Malheureusement, il n'existe pas de prescription générale à cet égard. La logique seule est insuffisante, même quand y est jointe la possession du trésor d'expérience le plus riche et le plus varié. Ce qui importe ici, c'est plutôt l'intuition immédiate, l'inspiration heureuse. Très souvent, il s'agira d'un rapprochement de pensée, paraissant au premier abord très osé, qui ne saurait être l'œuvre que d'une imagination créatrice vivante et originale, guidée par une connaissance exacte des faits. C'est évidemment une figure qui, vous voyez, elle va dans le sens de l'analogie, de la métaphore, et la métaphore est la figure de pensée le plus souvent invoquée quand on lit des travaux sur la genèse d'hypothèses nouvelles. Mais la métaphore comporte aussi des dangers. Là, il faut que je revienne un peu sur des choses qui ont été dites. Donc d'abord, la métaphore comporte aussi des dangers, et ensuite, il y a aussi d'autres figures qui peuvent être tout aussi importantes, qui peuvent même être seules à la base d'une découverte, sans que la métaphore y intervienne pour quoi que ce soit. Que la métaphore soit à la fois importante et dangereuse, eh bien, c'est illustré par le même livre de Planck que je viens de citer. Donc, il dit très souvent, il s'agira d'un rapprochement de pensée paraissant au premier abord très osé. Donc, il s'agira d'une métaphore osée, une métaphore tirée de loin, comme on dit. Mais en même temps, tout ce livre est un appel à l'évacuation de l'anthropomorphisme de la physique. Pour Planck, toute la métaphysique, toute la physique, jusqu'à la fin du XIXe siècle, même le mécanisme de gens comme Maxwell, etc., toute cette physique est encore marquée d'anthropomorphisme. Et il voit justement le progrès scientifique, le progrès de la physique, dans une diminution progressive de cet anthropomorphisme. En résumé, dit-il, ce qui caractérise l'évolution de la physique, c'est une tendance vers l'unité, et cette unification s'opère principalement sous le signe d'une certaine libération de la physique, de ses éléments anthropomorphiques, et surtout des liens qui la rattachaient à ce qu'il y a de spécifique dans les perceptions des organes de nos sens. La métaphore présente donc des dangers, c'est une illustration de cela. Et d'une certaine façon, l'histoire des sciences peut donc se lire à la fois comme une tentative constamment renouvelée de développer de nouvelles métaphores, mais aussi comme une résistance continuelle ou une critique continuelle de métaphores qu'on estime dépassées. À ce propos, la question de la métaphore filée est importante et complexe. Quelles sont les métaphores qu'on va retenir? Eh bien, effectivement, ce sont celles qui se laissent le mieux filer, qui se laissent le mieux développer, mais pas... Il s'agit évidemment d'un développement qui ne peut pas être arbitraire, n'est-ce pas? Et qui ne prend sens que dans un certain cadre, dans un ensemble de croyances, dans un ensemble d'idées admises, n'est-ce pas? Dans le monde d'Aristote, les métaphores peuvent être filées dans le cadre d'une physique qui prend pour qualité première des choses, leur qualité sensible, le chaud, le froid, l'humide et le sec. Dans une physique comme celle de Galilée, eh bien, les qualités premières sont la forme, la figure, la position. Et vous savez, on va donc privilégier d'autres métaphores et d'autres développements de la métaphore. La métaphore n'est pas la seule figure de pensée. Ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister un peu aussi. Je parle de la métonymie, de la synecdoque, mais il n'y a pas que les tropes, donc les figures qui portent sur la signification des mots, ce qu'on appelle les schèmes, donc les figures qui portent sur l'arrangement des mots dans le discours. peuvent aussi jouer un rôle important et peuvent être suffisantes pour conduire à une hypothèse, une découverte ou même une théorie. J'en donne un exemple que j'emprunte de nouveau à Kepler. À un moment donné, donc, vous savez que la Terre a une lune et en 1609, Galilée découvre avec son télescope que Jupiter a 4 satellites, 4 lunes. Et un peu plus tard, donc c'est lié à la question des anagrammes, un peu plus tard, Galilée découvre autre chose. Mais il ne dit pas quoi. Il écrit une anagramme qui veut dire tout à fait autre chose. Et plusieurs savants se mettent donc à la recherche de la signification cachée de cet anagramme. Alors, évidemment, ils font en fonction de savoir de leur époque, en fonction de leurs croyances, de leurs idées, des idées admises. Et Kepler se dit, la Terre a une lune, Jupiter en a 4, Mars se trouve entre les deux. Galilée a vu les satellites de Jupiter, il a probablement vu que Mars, qui se trouve entre la Terre et Jupiter, a 2 satellites. De façon à ce qu'on obtienne une belle progression géométrique 1, 2, 4. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement la construction de ce qu'on appelle une gradation. Il cherche une gradation dans la nature, n'est-ce pas? De la même façon, quand Copernic substitue son système, donc je remonte un peu dans le temps à celui de Ptolémée, on passe d'un système, donc celui de Ptolémée, où il y a en fait 3 planètes qui tournent autour de la Terre, Mercure, Vénus et le Soleil. Le Soleil est donc une planète, là, hein, en mouvement. Il y a 3 planètes qui tournent autour de la Terre en un an, mais qui sont à des distances différentes de la Terre. C'est un peu confus. Pourquoi à des distances différentes, sont nécessairement à des distances différentes? Comment se fait-il qu'elles accomplissent leur révolution dans le même temps? Parce qu'on acceptait comme axiome, comme principe, que le temps qu'une planète met pour tourner autour du centre est proportionnel à sa distance du centre. Donc il y avait là quelque chose qui clochait. En d'autres mots, on avait 6 planètes, mais dans une énumération désordonnée, ce qu'on appelait en latin une congeries, hein, l'énumération désordonnée. Que fait Copernic? Eh bien, en plaçant le Soleil au centre, il obtient un système où chaque planète est à une distance différente du centre et met un temps différent à tourner autour du centre. Donc on passe d'une énumération non ordonnée, d'une phrase mal faite si vous voulez, à une énumération ordonnée qui correspond de nouveau à une gradation. Puisque plus la distance augmente, plus le temps de révolution augmente aussi. Donc quelques exemples du rôle donc d'une figure qui n'est pas un trope, hein, qui ne porte pas sur la signification, mais qui porte sur l'ordonnancement des éléments dont une science s'occupe. On pourrait prendre une autre figure, l'antithèse par exemple. Collaboratrice va publier bientôt dans la revue d'Histoire des sciences un article sur le rôle de l'antithèse chez Lamarck, donc dans l'histoire naturelle. Et il y a sur ce sujet un livre important, mais très peu connu, d'une américaine qui s'appelle Fahnestock. C'est donc un domaine encore peu exploré, le rôle des schèmes rhétoriques, disons dans les schèmes de pensée. Je regarde un peu ce que j'ai noté pendant que vous avez parlé. Oui, soit dit en passant, je suis content que vous ayez apprécié l'image des boîtes noires. parce que pour ne rien vous cacher, le titre que j'avais prévu pour ce livre, c'était « Boîte noire de la science ». Mais ensuite, en discutant avec l'éditeur, on a changé pour établir un parallélisme avec le premier livre. Oui, vous savez, la question du rapport entre les figures, surtout la métaphore, et la fiction. Le propre d'une métaphore, c'est évidemment de pouvoir être développé, hein, de pouvoir être filé, et donc de donner lieu à un récit, à une allégorie. Mais donc, l'allégorie ne réside pas toujours, c'est ce que j'ai essayé de montrer donc dans l'étude sur Descartes, l'allégorie ne réside pas toujours dans le contenu, c'est-à-dire que on ne raconte pas forcément quelque chose pour que le lecteur comprenne autre chose. Dans le cadre d'une expérience de pensée, j'estime que le monde de Descartes est une expérience de pensée, ce n'est pas ce qui est dit qui est allégorique, c'est la performance même, le fait de le dire, qui a une valeur allégorique. C'est-à-dire que, en racontant, on se met à la place de quelqu'un qui fait. Le raconter est une métaphore du faire. Et c'est très net, justement, chez Descartes. Oui, je pensais que je citais la phrase ici, mais je ne la cite pas. Il y a des passages dans le monde, justement, où Descartes, vraiment, en quelque sens, plonge dans son texte, comme Narcisse, dans certaines versions. C'est-à-dire, il écrit à un correspondant, « J'en suis maintenant à démêler le chaos ». Donc, il n'est pas en train d'écrire comment le chaos s'est fait, il est en train de défaire le chaos. Il est en train d'agir, de faire. Donc, comme Narcisse, il est attiré par l'image de lui-même dans son propre texte, par le faire qu'il est en train de dire. Et en ce sens, donc, on obtient ce qu'on peut appeler, je crois, une performance allégorique. L'expérience de pensée implique au fond toujours une performance allégorique, puisque qu'est-ce que c'est l'expérience de pensée? C'est une métaphore d'une expérience réelle. On a recours à une expérience de pensée quand on ne peut pas accomplir l'expérience réelle. Mais l'expérience réelle est elle-même aussi déjà souvent une métaphore. On va, par exemple, on va mettre un petit bateau dans un bac à eau, et ça représente la mer avec un grand vaisseau dessus, etc. Donc, dans l'expérience même, on a déjà souvent recours à des substituts métaphoriques. L'expérience de pensée devient alors une métaphore au carré par rapport à l'action. Je crois que je vais m'arrêter là, évidemment.
Merci, on va avoir plein de questions à vous poser, je crois, et de notre côté et du côté de la salle. Marielle, tu veux commencer peut-être?
Est-ce que l'hypothèse de fond, c'est que la rhétorique est une science de l'esprit? Est-ce que ce que vous montrez pour les textes scientifiques, vous seriez tenté de le dire aussi pour le discours commun, pour tout ce qui a trait à la formulation de la compréhension ou de l'invention? Est-ce que c'est cette confiance fondamentale-là que vous faites à la rhétorique?
Oui, je pense que nous vivons sur une conception restreinte de la rhétorique. J'en parle d'ailleurs aussi à un certain endroit. Je pense que nous vivons dans une conception tout à fait restreinte de la rhétorique, une conception qui est la conception socratique ou platonicienne. si vous lisez Cicéron ou Quintilien, vous verrez qu'il y a des allusions à la rhétorique pré-socratique, ce qu'ils appellent une rhétorique pré-socratique. Et cette rhétorique pré-socratique pose, par exemple, pose des questions comme... pose des questions, disons, d'ordre philosophique, d'ordre scientifique. Est-ce que le vide existe, etc. Sont donc des exemples de questions cités dans le cadre de l'invention rhétorique, mais qui ont été éliminées par la conception restreinte qui s'est introduite avec Platon de la rhétorique. C'est plus, enfin, ça se trouve ici aussi. Mais... Donc, pour l'invention, hein, Cicéron pose comme exemple de question, y a-t-il un autre bien que la vertu? Les sens sont-ils fidèles? Quelle est la forme du monde? Quelle est la taille du soleil? Et Quintilien, si c'est la rencontre des atomes qui a formé l'univers, s'il est dirigé par une providence, s'il doit s'abîmer un jour. Et ils disent donc aussi explicitement que c'est à partir de Socrate qu'on a vu sur une conception restreinte de la rhétorique. Et je pense qu'il est symbolique que le maître de Gorgias, donc le rhéteur critiqué par Platon, était justement un philosophe pré-socratique. Son nom m'échappe maintenant. Un des sept. Son nom m'échappe. Donc une filiation directe est établie entre cette philosophie et la rhétorique, là. Et on peut penser qu'elle s'accompagne aussi d'une pensée épistémologique, puisque Gorgias était un esprit relativiste, sceptique, à l'opposé donc de Platon. Donc en quelque sorte, si vous voulez, pour moi c'est un retour aussi à une rhétorique non restreinte, pré-socratique.
Encore moins restreinte que la rhétorique non restreinte aux figures.
Oui.
Enfin, c'est un geste très, très impressionnant au moment où les études littéraires se tournent en partie vers les sciences cognitives pour essayer de formaliser leur compréhension de la fiction. Et là, avec la rhétorique, vous proposez vraiment une autre réponse à la même question, qui est celle du discours comme... le lieu d'inscription des processus mentaux. Est-ce que les tenants des sciences cognitives décrivent à propos de la fiction, ou vous décrivez d'une façon beaucoup plus, avec une mémoire culturelle beaucoup plus ancienne, en mettant plutôt l'accent sur les figures? Enfin, si je comprends bien, c'est une autre réponse au même type de question.
Sans doute, c'est
vrai. Ouais. Peut-être on a envie de...
Tourner vers... Oui, Fernand, j'admire beaucoup ton travail, que je lis depuis un certain temps. Et ce qui me fascine un petit peu, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu es un peu un homme de la Renaissance. Quand tu décris les processus de la Renaissance, tu montres comment tous les discours forment un même tissu, hein, dont chacun correspond à un pli particulier. Et on a un peu l'impression que ta tentative actuelle, de pénétrer donc les racines rhétoriques de la science, ça renoue avec un effort qui a peut-être été celui de la Renaissance, d'unifier, de retrouver la continuité de ce tissu discursif. Qu'est-ce que tu en penses?
On est sans doute toujours influencé par ce qu'on étudie. Je pense que c'est vrai, et je pense que ça correspond à une nécessité d'aujourd'hui de décloisonner des domaines, des disciplines, etc.
Et alors, tout à l'heure, tu évoquais une sorte de... Tu n'as pas prononcé le mot, mais tu évoquais une sorte de jubilation, finalement, à découvrir de rhétorique dans le discours scientifique. Est-ce qu'il n'y aurait pas chez toi en ce moment, ou à travers toi, une revanche possible du littéraire sur le scientifique finalement ?
Ah. Bon. C'est pas méchant, disons. Non. Oui, bien sûr. Enfin, c'est surtout un espoir de dialogue possible sur certaines choses. Ce dialogue est possible. Enfin, il y a des scientifiques qui acceptent de me lire, qui acceptent d'en discuter. Et qui acceptent même de travailler.
De réponse des scientifiques, justement, à ton dernier livre.
Scientifique, j'en ai pas encore beaucoup, mais j'ai préparé une partie du livre, donc les deux derniers chapitres sur Maxwell. Là, je sortais évidemment de mon domaine habituel. J'avais été fasciné par la lecture de Maxwell. Si on a le temps, je lirai un fragment tout à l'heure. Parce que Maxwell, c'est un peu pour moi le Kepler du 19e siècle. Quelqu'un qui se trouve à la transition entre une certaine période de la science et la suivante. Et quelqu'un sans qui la nouvelle période n'aurait pas été possible. Tous les articles importants d'Einstein de 1905, donc les premiers articles sur la relativité, tous ces articles commencent par citer Maxwell dans la première phrase. C'est vraiment le point de départ. Pour bien comprendre cette physique, j'ai travaillé pendant 3 mois avec un spécialiste, avec John Maddox, c'est-à-dire quelqu'un qui a été pendant 20 ans le rédacteur en chef de Nature. Il a accepté de venir à Bruxelles, on a travaillé ensemble sur ces textes. Et donc même une collaboration est possible. On a publié ensuite chacun de notre côté parce que on en faisait quand même des choses différentes, mais on se comprenait et on s'appréciait.
Une question d'ordre historique. Est-ce que les outils permettant d'établir la comparaison sont vraiment les mêmes entre ce qu'on pourrait appeler la science classique ou disons cette science faite par des scientifiques qui ont une culture rhétorique et qui sont nourris à la rhétorique, à l'invention par les lieux et à la connaissance de ces figures dès leur plus jeune âge, et la science moderne où les deux savoirs s'étant vraiment découplés, les scientifiques n'ont plus aucune culture rhétorique, et si on doit parler de rhétoricité de leur travaux dans des travaux qui sont extraordinairement mathématisés, on doit invoquer non plus une conception traditionnelle de la rhétorique, mais une sorte de rhétorique effectivement large qui ne se sépare pas de la logique. Est-ce qu'on peut parler de la même manière des sciences modernes ultra mathématisées, ultra spécialisées, sans background rhétorique et de la science classique?
Tout est rhétorique, n'est-ce pas? Tout est rhétorique, évidemment, les conditions sont différentes, les croyances sont différentes, mais les champs où on va chercher les métaphores, par exemple, peuvent être fort différents, mais cela ne change pas le cadre formel. Là où les différences sont plus facilement repérables, c'est évidemment dans cette rhétorique de la communication, n'est-ce pas ? Parce que là, chaque auteur s'adapte évidemment à des conventions, à un contexte social qui est propre à son époque. Il y a des difficultés de son époque aussi. Donc, il existe des études là-dessus. La science au XVIIe siècle s'écrit d'une manière particulière, d'une part par les cautions auxquelles elle fait appel, et aussi, dans certains cas, par les dangers auxquels elle s'exposerait si elle disait certaines choses qui pourraient paraître hétérodoxes. Donc, là, au niveau donc, de la communication, enfin, il y a des différences assez faciles à établir, mais qui concernent toujours une rhétorique. Et je pense qu'une étude rhétorique des textes je ne pense pas seulement, mais il y a des preuves de cela, une étude rhétorique des textes scientifiques contemporains est importante aussi pour la politique scientifique, par exemple. Il existe des études, par exemple, sur la manière dont on rédige aux États-Unis des rapports ou des projets pour des recherches à entreprendre, pour obtenir un financement, etc. Il y a toute une rhétorique très spécifique qui entre en jeu alors. Et on ne va pas faire appel à Dieu, comme le faisait Kepler, mais on va invoquer d'autres valeurs, d'autres justifications.
Oui, je comprends bien, effectivement, même Einstein l'avoue lui-même, s'est opposé à la théorie quantique à une époque, pour des raisons philosophiques, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la textualité du texte scientifique n'est plus le même. Les textes scientifiques contemporains ne ressemblent plus à ce qu'on a...
Non. Mais là, déjà, enfin, ceux du 16e ne ressemblent pas à ceux du 17e, ni à ceux du 18e.
Comment circulent ces métaphores à ce moment-là ? Vous parlez de champs métaphoriques bien spécifiques à une époque bien déterminée. Non ? Comment circulent-ils et comment se constituent aussi ces métaphores ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une origine sociologique, enfin, il y a un versant sociologique, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a. Y a-t-il autre chose, un autre type de circulation et de constitution ?
Je cherche un exemple.
Un topic spécifique à une époque, ça vous dit ce que je pense.
À un certain moment, par exemple, Galilée aperçoit des taches sur le soleil. Et à quoi correspondent ces taches ? Et pour certains, c'était des petites planètes qui passaient devant le soleil. Pour lui, c'est une sorte de nuage. Et il justifie, il y a donc toute une analogie développée entre ces taches et les nuages, qui est basée sur ce qui est constitué pour lui donc les qualités fondamentales des objets, c'est-à-dire la forme, la position, la figure, donc la position par exemple, le déplacement, etc. Donc c'est uniquement... On peut uniquement discriminer entre des analogies différentes en fonction de ce qu'on considère comme ce qu'on considère être les qualités fondamentales de l'objet. Donc la forme et ici donc surtout la position de ces taches à différents moments de l'observation fait conclure à que ce sont des objets comme des nuages. Il ne va pas jusqu'à identifier, mais c'est de la nature des nuages. Il y a toutes sortes de choses imprévisibles aussi qui interviennent là-dedans. Au XIXe siècle, par exemple, on commence à établir donc une distinction entre le monde des atomes, des molécules et le monde des corps constitués, en disant que au niveau des atomes, des molécules, on ne peut établir que des lois statistiques, et pas des lois dynamiques. Donc on ne peut pas prévoir le comportement d'un individu particulier, on ne peut qu'établir des statistiques. Et comme Et on essaie donc d'étudier cela aussi par l'expérimentation, mais on part aussi donc d'un modèle mathématique des statistiques qu'on essaie d'appliquer. Et le modèle statistique qu'on utilise donc en physique, on l'emprunte à la sociologie. Donc là, c'est un modèle sociologique qui est introduit en physique. On ne peut pas donner de règles générales. Il n'y a pas de liberté absolue. On ne peut pas dire n'importe quoi, évidemment. Il n'y a pas de détermination absolue non plus. Il y a donc une zone de liberté qui permet donc qui permet la découverte, qui permet aussi l'erreur.
Mais précisément,
est-ce que votre manière de lire des textes pose même une question, c'est est-ce que c'est l'esprit scientifique qui est rhétorique, oui, ce que je veux dire, et au fond, est-ce qu'il y a une véritable transversalité de la rhétorique pour différents domaines, scientifiques, littéraires, juridiques, ou est-ce que la rhétorique serait une science, vous l'élevez au rang de science aussi en même temps, mais vraiment le, qui serait le propre de l'esprit humain. Je pense que même votre démarche pose une question de fond, donc parce qu'on parlait de frontières, mais là on abolit les frontières en fait entre les domaines, parce que nous en tant que littéraires, enfin bon, moi je parle de ce que j'ai pu observer aussi sur les textes littéraires, c'est que on observe très souvent un transfert d'une pensée scientifique dans en fait une théorie littéraire, une poétique littéraire, avec une réutilisation en fait des concepts scientifiques pour penser le littéraire. C'est surtout, bon, c'est très présent, on en parlait tout à l'heure à la fin du 19e siècle. Bon, mais là, il s'agit d'un simple transfert. Vous, il me semble que vous allez beaucoup plus loin parce que vous abolissez vraiment la frontière. Vous semblez dire au fond, bon, même la question de l'intuition, elle est reversée, elle est repliée sur la question rhétorique. Alors que si on prend d'ailleurs même certains textes de scientifiques, ils excluent cette dimension intuitive. Dans encore une fois, un corpus de thèse de fin 19e. C'est vraiment un topos à la fin du 19e que de dire l'intuition du côté des sciences humaines, de la littérature, elle n'est pas du côté des sciences exactes. Mais,
mon but n'est certainement pas de ramener tout à un seul type de fonctionnement. Enfin, je ne lis pas ces textes comme je lisais les poètes baroques du tout, bien qu'il s'agisse dans les deux cas de rhétorique. Non, ce que je pense, c'est que la rhétorique, mais alors la rhétorique non restreinte, c'est-à-dire, oui, mais aussi non restreinte en ce sens où elle intègre ce que la linguistique, la pragmatique, la sémiotique peuvent lui apporter, parce que il y a beaucoup de notions en rhétorique qui sont apparues dans d'autres domaines, tout simplement parce qu'à un certain moment, on a oublié ce que c'était que la rhétorique. La pragmatique s'est développée comme une discipline à part, à un moment où on ne parlait plus de rhétorique, alors qu'en fait, les questions qui sont posées sont les mêmes. Donc, la rhétorique non restreinte en ce sens-là, donc dans le sens où elle intègre l'héritage du passé, mais aussi l'apport de disciplines actuelles, me semble offrir en premier lieu un langage. C'est ça, un langage qui est applicable à tout type de texte ou de discours. Et qui permet justement d'établir aussi des rapports là où il n'y a pas de transfert explicite de concepts ou d'idées. Donc il ne s'agit pas d'unifier, si vous voulez, il s'agit de créer une possibilité de faire communiquer dans un langage unique.
Mais est-ce que pour ce qui est des métaphores, dans la science moderne, les métaphores ne viennent pas a posteriori, dans la mesure où les découvertes sont souvent de choses qui sont contre-intuitives, la dualité onde particule ou les supercordes, qui sont des choses qui sont des conséquences mathématiques, mais qui ne sont pas engendrée à l'origine par une métaphore, parce que la métaphore n'existe pas, elle est trouvée a posteriori pour communiquer quelque chose d'aussi difficile à comprendre que le fait que la lumière existe, peut-être décrite de manière totalement différente, par deux métaphores tout à fait opposées, l'onde et la particule. Est-ce qu'il n'y a pas un changement, là, pour le coup, du rôle de la métaphore ?
Ben, effectivement, il y a des cas où la métaphore n'intervient pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de processus qui ne se laisse pas réduire à un formalisme vraiment logique. Il y a des découvertes qui se font une fois qu'un champ est constitué, donc un paradigme, pour le dire ainsi. À l'intérieur de ce paradigme, on peut évoluer d'une manière cohérente. On a les métaphores de départ, sans doute, mais à l'intérieur du paradigme, on peut évoluer de manière cohérente sans métaphore, et de préférence sans métaphore.
Nicolas Vanlin.
Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur le soupçon d'origine platonicienne que vous avez évoqué tout à l'heure, le soupçon à l'égard de la rhétorique, qui est très présent à l'époque contemporaine, et qui va jusqu'à ce qu'évoquait Alexandre tout à l'heure, le mythe d'un discours pur, un discours scientifique, peut-être totalement formaliste, ou peut-être le discours mathématique, que l'on voudrait, que l'on imaginerait pur de toute rhétorique. Donc j'aimerais bien vous essayer d'expliquer comment, entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, on est arrivé à cet état de soupçon et de méfiance radicale à l'égard de la rhétorique.
Les soupçons ont toujours été là. Si vous regardez les statuts de l'Académie de... une académie privée qui a précédé, qui a été à l'origine de l'Académie des sciences, ici à Paris, eh bien, je crois que la troisième règle des statuts interdit justement toute rhétorique dans les discussions. Mais il s'agit donc là de la rhétorique dans un sens péjoratif, le sens péjoratif que j'ai évoqué. Évidemment, quand on utilise le mot rhétorique, comme c'est souvent le cas, dans un sens péjoratif, on va exclure la rhétorique. On va même exclure la rhétorique de la poésie. Ce sens péjoratif, donc, qui remonte en un sens à Platon, Platon avec ses objections d'ordre éthique contre la rhétorique. Auxquels sont sans doute venus s'ajouter aussi, alors ça ce serait peut-être, c'est hypothétique, hein, ce serait peut-être l'apport des temps modernes, il y a plus seulement le soupçon donc d'ordre éthique, mais aussi d'ordre épistémologique, en ce sens que quelque chose qu'on exprime de manière rhétorique, donc en recourant explicitement à une belle métaphore, à une belle périphrase, etc., ça éloigne de la vérité, ça dissimule la vérité. Donc ce sont deux conceptions restreintes de la rhétorique, si vous voulez, la rhétorique comme embellissement, comme ornement, et la rhétorique comme mauvaise foi, qui sont à l'origine, évidemment, de tous les préjugés qui pèsent sur la rhétorique.
Donc, c'est relatif à une conception de la vérité particulière, une conception de la vérité qui changerait entre l'époque classique j'ai du mal à me représenter comment ça a pu se passer, enfin, quelle est l'évolution historique.
Ben, je pense pas qu'il y ait eu d'évolution historique. Il y a eu ce double préjugé depuis le début. J'essaye de reprendre les choses avec un autre regard, donc sans ces préjugés, de relire les textes de cette manière-là. Donc, les analyses que je fais, si vous voulez, ne sont pas des analyses historique, enfin, j'essaie quand même de faire en sorte qu'elle soit fondée historiquement, mais j'essaie aussi j'essaie d'y répondre à des questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur des textes du passé. Dans quelle mesure peut-on intégrer ces textes dans des questionnements actuels? Donc, ce n'est pas un livre d'érudit, si vous voulez, qui essaye d'amasser des trésors du passé pour les mettre à la banque, mais c'est un livre de quelqu'un qui essaye d'intégrer le passé dans le présent.
Il y avait une autre question, je crois.
Il y a une question poétique sur la distinction entre récit et fiction, savoir si vous la faites, la distinction entre récit et fiction. C'est une question un peu étrange, puisqu'en général, on mélange notamment les deux, le récit fictionnel, la fiction narrative. Il me semble, quand on lit des textes comme par exemple Le Monde de Descartes, qu'on a affaire justement à une fiction qui peut-être n'est pas narrative, qui est fiction descriptive, ou, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et inversement, quand on essaye de retrouver le narratif dans une description d'expérience de Boyle, on va retrouver le récit d'expérience avec une chronologie, donc vraiment un aspect narratif, mais pas fictionnel. Et donc, en lisant ces textes-là, la question qui se pose pour moi est poétique. Comment on va pouvoir utiliser justement ce que vous parlez des outils narratologiques ou poétiques contemporains, comment on va pouvoir devoir peut-être les réorienter, les réévaluer à l'aune de ces textes scientifiques qui peuvent parfois être fictionnels sans être narratifs ou être narratifs sans être fictionnels.
C'est toujours de la science-fiction. Hein. Ben, les cas sont différents, évidemment. On ne peut pas tout ramener à un seul type de fonctionnement.
Distinguer parfois pour l'analyse.
Oui. C'est le cas pour le démon de Maxwell, par exemple, où il y a. Donc, c'est une expérience de pensée où il y a très nettement, d'une part, un début et une fin qui sont descriptifs. Le début correspond donc à ce qui est établi par la science au moment où Maxwell écrit. Entre les deux, il y a une fiction, donc intervention d'un démon, et la fin est nouveau descriptive, elle est d'ordre d'une science qui établit ce qui arriverait si cette fiction intervenait dans la réalité qui a été décrite.
C'est la race
du son, peut-être
là. Oui. Le milieu qui est
descriptif. Bon, Descartes, Le Monde, à partir du sixième chapitre, Descartes dit, je vais vous raconter une fable, ça devient narratif, on voit vraiment naître le monde du chaos. Et c'est justement, sans doute, je ne me suis jamais formulé le problème de cette façon-là, mais comme vous le formulez, c'est sans doute la confusion du récit avec la fiction qui fonde l'allégorie performative dont j'ai parlé, la confusion des deux plans.
Oui, oui, allez-y, mademoiselle.
Parlez tout à l'heure de frontières et de franchir des frontières. J'ai juste une question justement par rapport à votre œuvre que je lis depuis quelques années. Et dans quelle mesure vous vous situez par rapport à Michel Serres, par exemple, en France, et par rapport au Science and Literature aux États-Unis ou en Angleterre?
Par rapport à
Science et Littérature, ce ouais. domaine de recherche constitué en tant que tel qui existe en Angleterre, par exemple, aux États-Unis, qui n'existe pas en France. Est-ce que vous vous situez par rapport à eux dans une lignée, dans un parallélisme, je ne sais pas, et par rapport à Michel Serres, comment vous...
Je me sens très proche de Michel Serres, en effet. Une différence importante, c'est sans doute qu'il aborde les problèmes en philosophe. Moi, je les aborde en littéraire. Mais on essaye d'établir les communications du même ordre. la société américaine dont vous parlez fait des choses très intéressantes aussi dans sa revue. Elle a une revue, Configurations, qui est une revue très intéressante, mais elle, il y a quand même une tendance à aller toujours dans la voie traditionnelle, c'est-à-dire d'étudier avant tout l'impact que peut avoir la science sur la littérature. Je crois.
Hugues Marshall.
Cette question récemment à propos de textes de médecins poètes de la fin du XVIIIe, que j'ai approché avec mes habitudes de intimiste, où je suis un intimiste, sur ces rapports justement. Et tout d'un coup, je me disais, mais il y a comme un vice dans ma méthode, puisqu'à la même époque, on demande au médecin d'être un littérateur. Il y a des textes très nets qui disent que ça fait partie des qualités du médecin, d'être un écrivain. Alors même si on laisse de côté le problème des chirurgiens ou médecins qui tous n'avaient pas le même rapport aux arts libéraux, tout d'un coup, on se trouve à dire, ah, il y a du lien. Alors que ce lien était postulé par l'époque elle-même. Et finalement, à produire un savoir sur ces textes, qui d'une certaine manière me semble anachronique, parce qu'il est issu de cette division qui n'est pas postulée à l'époque. Alors c'est une grosse question, c'est très vaste. Comment la résolvez-vous de votre côté? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que quelqu'un comme Galilée se pense scientifique et non littérateur? Est-ce que cette question comme celle-là fait sens à l'époque ou non?
Oui. Disons que la question qui m'occupe le plus n'est pas du même ordre. Évidemment, chez Galilée, il y a une dimension que nous appelons aujourd'hui littéraire. En même temps, il dit aussi qu'il ne pratique pas la fiction des poètes. Ça, c'est une question du premier niveau que j'ai distingué, la rhétorique des communications, où il y a effectivement des normes qui sont propres à des époques, à des pays, à des situations, et qui font qu'on écrit autrement que... Galilée, par exemple, donc adopte un certain style en italien qui a un sens et à son époque, il évite le latin d'une part, la langue constituée de la science, et il évite aussi, et ça c'était nouveau aussi quand même, il évite le langage. Très technique et souvent dialectal des spécialistes de tel ou tel art mécanique de l'époque. Il choisit donc la langue littéraire de le florentin de l'époque. Ça, c'est donc un choix, effectivement, mais qui relève de la rhétorique de la communication. Ça n'a rien à voir avec ce qui lui fait découvrir dans la Lune, certaines choses que d'autres n'ont jamais vues. Ça, c'est indépendant de ces contraintes de l'époque. Ce n'est pas indépendant, mais ça s'en dépend d'une autre manière. Donc, je crois que vous avez utilisé trop exclusivement le mot rhétorique dans le sens de ce qui sert à persuader les autres dans la communication en fonction de des convenances d'une époque donnée. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, effectivement, un ingénieur du XVIIe siècle n'écrivait pas comme un ingénieur du 20e. Donc il faut bien distinguer des questions qui se posent de manière différente.
J'ai l'impression que plusieurs des questions qui ont été posées rejoignent, que ce soit la façon dont vous avez parlé d'un effort d'unification des discours, à quoi... Alexandre a un peu répondu symétriquement en disant est-ce que justement cet effort d'unification serait possible pour des textes contemporains, probablement plus mathématisés, formalisés, etc. Oui, j'ai l'impression qu'on se pose fortement cette question de la place du geste de renouer avec une rhétorique plus ancienne, précisément dans une époque de guerre des cultures ou dans une époque où l'honnête homme n'est plus capable de maîtriser la science de son temps, où on est fortement séparé, etc. C'est peut-être cette question d'un lien dissolu qui nous pousse un peu tous à poser le même problème.
pense que, évidemment, dans le concret, le lien n'est pas facile à établir, mais si on essaye de dépasser, disons, les différentes pratiques par une pensée théorique, on peut y parvenir. Et d'autre part, enfin, pour continuer encore un peu en même temps à répondre à votre question, donc il faut faire abstraction de cette dimension de communication. Je vais peut-être citer, j'avais pensé à deux exemples d'une relation science-littérature qui sont éclairantes pour le genre de rapport parfois inattendu qu'on peut trouver même aujourd'hui. Alors, j'avais pensé d'une part à un poème que j'aime beaucoup de Ponge, un poème qui s'intitule « Sur l'électricité ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est assez long, hein, je ne vais pas le lire en entier. Donc, je lis le début d'abord. « Restons donc dans la nuit, quelques instants encore, mais reprenons ici conscience de nous-mêmes et de l'instant même, cet instant de l'éternité que nous vivons. Rassemblons avec nous dans cette espèce de songe les connaissances les plus récentes que nous possédions. » Et ces connaissances sont les connaissances de la physique, qu'il met en rapport avec la Grèce présocratique, justement, avec Thalès et d'autres. Et je lis encore la fin. « Nous voici donc revenus, dirais-je, à un temps tout pareil à celui des Cyclopes, bien au-delà de la Grèce classique, bien au-delà de Thalès et d'Euclide, et presque au temps du chaos. Les grandes déesses à nouveau sont assises, suscitées par l'homme sans doute, mais il ne les conçoit qu'avec terreur. Elles s'appellent Angström, année-lumière, noyau, fréquence, onde, énergie, fonction psy, incertitude. Elles aussi, comme les divinités sumériennes, stagnent dans une formidable inertie, mais leur approche donne le vertige. Et sur leur tablier sont inscrites les formules en écriture abstraite, en haute mat. » Première constatation, il y a ici un effort de communication sans compréhension, si je puis dire, entre cette science et le poète. Et puis, nos formes de pensée, nos figures de rhétorique, en effet, datent d'Euclide. Ellipse, hyperbole, parabole, sont aussi des figures de cette géométrie. Que voulez-vous que nous fassions? Eh bien, sans doute ce que nous faisons, nous, artistes, nous, poètes, lorsque nous travaillons bien. Et je ne dis pas pour moi que ce soit aujourd'hui. Sûrement non. C'est quand nous nous enfonçons, nous aussi, dans notre matière, les sons significatifs. Sans souci des formes anciennes, et les refondant dans la masse, comme on fait des vieilles statues, pour en faire des canons, des balles, puis, quand il le faut, à nouveau des colonnes selon les exigences du temps. Donc, il y a ici le désir de construire une nouvelle rhétorique, juste en s'enfonçant dans la matière, dit-il, c'est-à-dire en descendant au-delà des mots vers les sons, ce qu'il fait d'ailleurs, comme en physique on est descendu des corps constitués vers les atomes, etc. Donc, il y a un rapport rhétorique en tout cas, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend dans un sens courant par sous ce mot. Et puis, j'en reviens encore, ce sera peut-être la fin, j'en reviens encore une fois à mon cher Maxwell. Ce qu'il dit à propos de Lucrèce, donc il y a presque 20 siècles quand même, hein, de distance. D'abord, ce que Ponge a écrit sur Lucrèce dans le même poème, et puis, donc c'est Ponge, hein, et puis je relis Lucrèce, et je me dis qu'on n'a jamais rien écrit de plus beau, que rien de ce qu'il a avancé dans aucun ordre ne me paraît avoir été sérieusement démenti, mais au contraire, plutôt confirmé. Ce que dit Ponge ici, on le retrouve donc chez Maxwell, qui était un grand lecteur, qui écrivait même aussi des poèmes en latin au XIXe siècle, et qui était en particulier un admirateur de Lucrèce. Il est même allé jusqu'à écrire à un philologue de l'époque, le principal éditeur de Lucrèce au XIXe siècle, pour lui demander s'il ne se trompait pas en voyant dans le texte de Lucrèce ce qu'il y voyait. Je vous lis un petit fragment. En particulier, les atomes lucréciens ont-ils un mouvement originel toujours le même et dans la même direction, vers le bas, et également accéléré, excepté dans la mesure où ils dévient et entrent ainsi et seulement ainsi en collision. Alors que spatium signifie fine modo que est. Donc, résumé très bref de la doctrine de Lucrèce, donc des atomes qui descendent en ligne droite, mais qui se heurtent, qui sont déviés donc par le clinamen. Et il ajoute, les mots sont une illustration tellement bonne de la théorie moderne, puis il cite des vers, que ce serait dommage s'ils signifiaient quelque chose de différent. Et il développe encore plus en détail le rapprochement. Il y a aussi des distinctions, hein, parce que lui n'accepte pas le vide. Lucrèce a une fausse conception de la pesanteur, mais pour le reste, mouvement des atomes. Pour lui, c'est étonnant, donc, comme ça correspond à sa conception des atomes, qui effectivement se déplacent par inertie, mais qui exercent les unes sur les autres une force répulsive qui fait qu'ils dévient de leur parcours. Vous avez là, au niveau de l'imagination, si vous voulez, et même de la construction hypothétique très sérieuse ici, parce que c'est quand même très précis, n'est-ce pas? Les atomes sont des centres de force, hein, pourvus d'une action répulsive, inversement proportionnelle à la cinquième puissance, la distance qui les sépare l'un de l'autre. Très exactement calculé. Est pratiquement confirmé encore par la physique d'aujourd'hui. Pas la cinquième, mais la septième puissance, on dit aujourd'hui. Et donc, à part cette puissance exacte, il retrouve donc son modèle dans Lucrèce. Donc là, il y a un rapport qui l'étonne. Il n'en revient pas. Il va même jusqu'à écrire aux spécialistes de Lucrèce. Entre une théorie qui s'est développée au XIXe siècle et une autre où un poète reprend, premier siècle, une théorie grecque qui date d'avant lui. Donc vous voyez, quand je parle de rhétorique, j'ai peut-être tort d'employer trop souvent le terme de rhétorique et de parler de rhétorique profonde, je devrais peut-être parler plus souvent de poétique. Si je disais poétique, vous admettriez plus facilement un rapport, de tels rapports entre les textes, je pense. Non ?